me que se passe teu?
Me que se passe teu?
Oh, me que se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces nouvelles du monde. Je vous emmène en balade pour un petit tour de l'actualité trépidante de ce mardi 8 avril. Et on commence sans tarder, tout d'abord en vous annonçant un rendez-vous qui a lieu ce jeudi à l'appel du collectif Maternité à défendre. Puisque se tiendra donc à Ganges ce jeudi une réunion du comité de suivi, une réunion donc en présence de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, et il invite tout un chacun à manifester justement la mobilisation populaire pendant cette réunion, donc en se rassemblant de 13h à 17h. Ça sera donc sur le rond-point de l'Europe, le rond-point qui nous amène sur la route de Montpellier à l'entrée de Ganges. Un rassemblement a eu lieu aussi à Montpellier, c'était ce samedi 5 avril, 3000 personnes environ ont manifesté en musique et en techno dans les rues de la ville pour dénoncer la répression subie justement par le milieu des free parties et notamment par cet arrêté préfectoral du début d'année dont je vous avais parlé, un arrêté du nouveau préfet, donc François-Xavier Lauche, le préfet de l'Hérault, interdisant ces fêtes, donc les free parties, sur tout le département de l'Hérault pour toute l'année 2025. Interdire les free parties ne fera que déplacer le problème ailleurs. C'est un résumé de la problématique hein, qui avait été à l'époque. Cette déclaration avait été faite à l'époque par Samuel Raymond, qui dirige l'association Freeform, hein, une association qui assure, qui essaye d'assurer la médiation entre l'État et les organisateurs de ces événements festifs libres dédiés aux musiques électroniques. C'était à l'époque de l'annonce de cette nouvelle interdiction pour toute l'année 2025, ce qui est normalement pas très conforme au droit, mais visiblement. Eh bien, la loi a été maintenue. Cette décision était donc inédite, notamment par le fait qu'elle s'applique à toute l'année, alors que normalement, dans d'autres préfectures, les décisions sont prises de manière plus temporelle, par exemple autour de l'été, et en justifiant des fois des dangers particuliers. Donc une spécificité locale pour l'Hérault, hein, dans ce département, qui avait aussi le record d'accueillir le plus de free parties de toute l'année. Et du coup, il y a un petit effet de domino. Donc déjà, le problème s'est déplacé ailleurs puisqu'il s'est retrouvé dans les rues de Montpellier ce samedi. Hein. Ça a un petit peu interrompu la circulation des tramways puisqu'on était autour de la Comédie. 3000 jeunes, ce sont principalement des manifestants assez jeunes qui ont défilé au son des grosses basses émanant des murs de son montés sur des camions véhiculés. Tout cela donc pour demander la fin de la répression sur ce mouvement. Le tout a été conduit sous l'étroite surveillance d'agents de police venus en nombre. Mais pas d'incident à déplorer. À noter que dans d'autres grandes villes de France, d'autres manifestations de ce type, qu'ils ont appelées les manifestives, auront lieu le samedi qui arrive, le 12 avril, mais qu'à Montpellier, pour cause de calendrier, notamment de marathon la semaine prochaine, c'est samedi 5 avril qu'elles ont eu lieu. Le préfet de l'Hérault pourrait bien être l'avant-garde éclairée de la répression que subit le mouvement des free parties, ironise donc cet article trouvé sur le média en ligne Le Point, avec un G à la fin. Le 18 mars dernier, des députés macronistes ont déposé une proposition de loi qui vise justement à renforcer la pénalisation de ces soirées techno avec des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 6 mois de prison et 5000 euros d'amende pour les organisateurs présumés. En comparaison, en Italie, où la politique est aussi très dure contre ces mouvements, et où il y a aussi une culture free party très forte, eh bien le gouvernement de Giorgia Meloni, donc d'extrême droite, a aussi fait passer une loi qui prévoit là jusqu'à 6 ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende ainsi qu'une surveillance policière intense pour tous les organisateurs de free party. Voilà un petit peu l'ambiance en ce moment du côté du sud donc de l'Europe, ce qui d'ailleurs conduit pas mal de ces organisateurs de free party italiens à venir Les faire sur le territoire français, ce qui augmente encore donc la pression autour de ces événements. Pour revenir à la manif de ce samedi, c'est le porte-parole de Six Sons de Système qui était présent à cette manifestation, qui s'appelle SEN, et il énumère les revendications justement de ces organisateurs. Nous voulons que la Free Party sorte de la tutelle du ministère de l'Intérieur pour passer sous la tutelle du ministère de la Culture, afin qu'on soit reconnu comme une vraie culture. Nous voulons aussi l'arrêt de la répression, parfois meurtrière, comme lors de la fête de la musique à Nantes en 2019, où le jeune Steve était mort après une charge de la police. On veut la fin des amendes, des saisies de matériel et de la répression à l'encontre des organisateurs. Nous demandons la dépénalisation de nos événements, comme c'est le cas au Portugal, aux Pays-Bas ou certaines régions d'Espagne. Ces revendications s'inscrivent dans le droit à la fête libre que nous exerçons depuis 30 ans dans une logique d'autogestion, de tolérance et de lutte contre les discriminations. C'est donc le communiqué et les revendications de ces organisateurs de Free Party. À noter d'ailleurs que la Ligue des droits de l'homme était présente à cette manifestation, notamment par la voix de son avocate Sophie Mazas, qui a aidé d'ailleurs ces toughers à déclarer la manifestation en préfecture et qui avait été, en début d'année, contester cet arrêt du préfet au tribunal administratif, même si ce n'a pas été reçu. Elle expliquait que le texte était flou, notamment autour de cette limite, une limite symbolique de 500 personnes, pour voir à peu près à partir de quelle taille ces événements sont interdits. Et donc, dans le texte d'origine, en dessous des 500 personnes, les événements ne sont pas soumis à déclaration. On peut faire des fêtes sans déclarer en dessous de 500 personnes. Et le texte ne mentionnait pas cette barrière des 500 participants, puisque il disait que tout rassemblement non déclaré était interdit. Mais bon, si on fait une fête à 100, est-ce que ça comptait comme une free party? Donc il y avait un gros flou. Et le tribunal administratif a permis d'ailleurs de clarifier ce point, et d'ailleurs de dire par la même occasion au préfet qu'il ne pouvait pas créer un nouveau droit en interdisant toutes les free parties. Donc celles en dessous de 500 participants sont toujours autorisées, tout comme tout autre rassemblement. Malgré tout, cette démarche auprès du tribunal administratif n'aura pas suffi à faire annuler l'arrêté qui court donc bien sur toute l'année pour tout le département de l'Hérault. La Ligue des droits de l'homme entend par ailleurs créer un observatoire des free parties, justement avec des bénévoles qui seront chargés de signaler d'éventuelles répressions sur ces fêtes, garantir la liberté d'expression et de réunion. C'est d'ailleurs aussi sous ces mots d'ordre que deux organisations syndicales de l'Hérault se sont jointes à la manifestation de ce samedi. C'était le syndicat Solidaire et la FSU. Ils ont co-déclaré la manif. Pour d'ailleurs Patrick Chemin, qui est co-secrétaire de l'Union syndicale Solidaire 34, la manifestation répond à un contexte d'attaque généralisée sur la culture, qu'elle soit légitime ou non, avec des coupes budgétaires d'un côté et une répression accrue de l'autre. Ce climat est une porte ouverte vers le fascisme. La manifestation a fait une halte devant le commissariat central, tout ça de manière très festive et jeune, je vous l'ai dit. Ça s'est terminé, tout ça, place de l'Europe. Et puisqu'on parle justement des effets de domino et des problèmes qui se déplacent sur d'autres départements, la préfecture de l'Aveyron vient de prendre un arrêté jeudi dernier, là aussi pour interdire les rassemblements non autorisés de type Technival. Une interdiction temporelle cette fois-ci, puisqu'elle va tenir jusqu'au 30 septembre 2025. Aux États-Unis, manifestation aussi en masse ce samedi dernier, le jour même, donc samedi où Trump imposait cette taxe douanière folle au monde entier, risquant par là de plonger peut-être la planète dans une grave crise économique, comme l'avait fait le crack en 29. Eh bien, 5 millions de manifestants sur tout le territoire des États-Unis ont participé à environ 1400 manifestations qui étaient organisées ce 5 avril, avec d'ailleurs une participation plus importante dans les petites villes, et y compris avec des électeurs républicains. Donc des rassemblements contre les politiques de Trump et de Musk et leur cortège d'attaques contre la sécurité sociale, l'aide médicale, l'éducation, la science, l'emploi ou les libertés démocratiques. Des rassemblements de cette ampleur, c'était du jamais vu depuis le mouvement Black Lives Matter, qui date de 2020, ce qui était à l'époque le plus grand mouvement de l'histoire américaine. Il avait duré 4 mois et avait fait d'ailleurs reculer Trump à l'époque en lui faisant perdre les élections cette même année. Cette manifestation donc anti-Trump et Musk est partie de la base sur les réseaux sociaux Ensuite était suivi par la base syndicale. Les syndicats reprennent un petit peu du poil de la bête aux États-Unis. Et enfin, d'ailleurs, les directions de ces syndicats, la veille, donc le vendredi, ont appelé à se rendre à ces rassemblements, avec aussi la participation à la dernière minute de dirigeants du Parti démocrate. Cette annonce a été faite après 2 mois de peur ou d'hésitation. Hein. C'est donc peut-être un tournant majeur dans l'opinion et la mobilisation aux États-Unis. Et à noter que ça ne se limite pas d'ailleurs à leur territoire, puisque par exemple au Canada, désormais, c'est tous les samedis que se tiendront ces rassemblements, c'est tous les dimanches que se tiendront des rassemblements contre la politique agressive de Donald Trump. Manif toujours, décidément, c'est le printemps, on part en Espagne, ou à Madrid, Barcelone, ou d'autres grandes villes du pays. Des centaines de milliers de personnes se sont mobilisées contre ce qu'ils appellent les vautours de l'immobilier et du tourisme. Ces vautours qui empêchent l'accès à un habitat à un prix décent. C'est par exemple à Madrid que la manifestation a rassemblé quelques 150 000 personnes à l'appel des organisations de locataires. Dans cette manifestation monstre, donc, des slogans haut en couleur, ont été repris par la foule, comme « se loger doit être un droit et ne peut être un commerce » ou encore « pas de logement sans personne, ni de personne sans logement ». La colère donc a atteint ce point culminant chez tous les citoyens qui se disent victimes des surenchères pratiquées ouvertement sur le marché de l'immobilier, donc par des propriétaires ou des fonds d'investissement type Airbnb. Ceux-ci profitent de l'arrivée des touristes avec les beaux jours pour augmenter les loyers ou bien transformer des logements dont le prix devient de plus en plus inaccessible à la population locale. Un résultat au niveau de l'échelle de la société entière en Espagne, c'est que la plupart des personnes de moins de 35 ans doivent aujourd'hui rester chez leurs parents, partager des appartements à plusieurs ou bien partir dans des banlieues de plus en plus lointaines pour pouvoir accéder à un logement. Et même là, souligne d'ailleurs une des personnes présentes à la manif de ce samedi à Madrid, les gens doivent se saigner pour payer les loyers, donc même en s'éloignant des grandes villes. Face à l'ampleur donc de ces drames qui sont devenus la norme, de nombreuses amicales de locataires et des associations de citoyens se disent prêtes à lancer une grève des loyers. À Barcelone, par exemple, les contrats dits saisonniers, qui durent de 1 à 11 mois et qui ne sont soumis à aucune régulation, représentent 40% des locations. Dans des zones encore plus touristiques, qui sont proches des côtes, les prix des loyers dépassent le plus souvent 100% du salaire moyen, ce qui rend tout simplement la vie impossible pour tous les travailleurs locaux. Un modèle de ville qui reste quasiment donc totalement marchandisé, combiné au surtourisme, est à l'origine de la descente aux enfers de millions de citoyens. C'est ce que dénonce la plateforme Valencia no está en venda. Valence n'est pas à vendre, donc la ville de Valence. Plusieurs actions symboliques ont d'ailleurs été organisées du nord au sud du pays. Par exemple, à Madrid, des stations de métro ont été rebaptisées par les manifestants. Par exemple, Casa del Banco, maison de la banque, Embargadores, huissier, précarité ou bien derecho, droit. Comme en 2008-2009, à la suite du krach financier, des expulsions immobilières battaient alors leur plein sous l'égide des banques, ce qui donna lieu à l'irruption du mouvement des indignés, le logement continue donc de hanter le quotidien des Espagnols. Et si le gouvernement de gauche, à majorité socialiste de Pedro Sanchez, affiche bien sa volonté de combattre la flambée des prix, il reste un peu tiède. Dans les avancées, on peut noter une hausse de la fiscalité appliquée au logement touristique et une volonté affichée de construire des logements sociaux. Mais beaucoup des associations et des collectifs liés au logement jugent la réponse du gouvernement trop timide, compte tenu de la dimension prise par le phénomène.
Ah oui, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi ?
Et oui, en milieu rural, d'autres problématiques, et notamment celle des éoliennes, avec deux petites dépêches qui viennent éclairer un petit peu différents aspects de ces problématiques. Tout d'abord, le tribunal correctionnel de Montpellier, donc dans l'Hérault, a ordonné récemment la mise à l'arrêt des 31 éoliennes qui sont plantées sur le causse d'Omelas. Ces éoliennes ont été en effet jugées trop dangereuses pour les faucons cresserellettes. C'est donc une décision historique, c'est ainsi que l'a qualifié Olivier Gourbineau, qui est juriste pour France Nature Environnement Occitanie Méditerranée. Et cette décision donc administrative vise bien à protéger ces oiseaux durant leur période de nidification. Depuis la mise en service en 2006 de ces éoliennes, les pales de ce parc éolien ont provoqué en effet la mort d'au moins 70 de ces petits rapaces qui sont une espèce protégée classée comme vulnérable en France. Et à noter qu'il y a aussi eu la mort de 1 à 2 busards cendrés par an, qui est également une espèce très fragile. Selon le bilan du plan national d'action pour le faucon cresserellette, ces 70 spécimens morts ne constituent que la part visible de la mortalité à cause du parc. Elle est en effet estimée au triple, donc peut-être plutôt 200 individus qui sont morts des pales des éoliennes. France Nature Environnement bataille depuis 2012 contre EDF sur le sujet. Autrement dit, ce parc, qui produit environ la consommation annuelle de 60 000 personnes en électricité, est la principale menace qui pèse sur la population des faucons dans l'Hérault. Cette espèce est migratoire et elle vient en France pendant l'été, donc pour se reproduire. Le tribunal a par ailleurs aussi reconnu que EDF Renouvelable, ainsi que les 9 filiales qui exploitent ce site éolien, étaient pénalement responsables de cette surmortalité d'oiseaux. Et le tribunal les a donc condamnés chacune à 500 000 euros d'amende, dont la moitié avec sursis. L'ancien PDG d'EDF Renouvelable, Bruno Bensasson, écope, lui, à titre individuel, de 6 mois de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende. Et enfin, ils devront également verser 80 000 euros pour le préjudice écologique. France Nature Environnement, donc Occitanie Méditerranée, est à l'origine de cette procédure et elle salue évidemment le résultat. C'est une décision très complète. Jamais un tel montant d'amende au pénal n'avait été infligé pour la destruction de la biodiversité, mis à part dans le cas de dégazage de bateaux, donc plutôt des marées noires. S'il n'y avait pas ces éoliennes, on aurait deux fois plus de faucons cresserellettes sur le territoire, a expliqué le président de l'asso. Et il insiste d'ailleurs que son association France Nature Environnement n'est pas du tout opposée à l'éolien. Mais, explique-t-il, on souhaite surtout qu'avec cette condamnation exemplaire, les exploitants des parcs éoliens arrêtent de contourner les règles sur les espèces protégées et prennent véritablement en compte les risques posés par leurs installations. Un autre exemple qui date de ce jeudi 3 avril, la cour administrative à Nancy, donc on est dans l'Est, a annulé en appel un projet de parc éolien, le projet dit des Monts des Quatre Faux, et la raison invoquée c'est saturation visuelle. Plusieurs habitants du nord-est de la ville de Reims s'étaient en effet opposés en 2020 à l'installation de 63 éoliennes, des éoliennes d'une hauteur de 200 mètres une fois qu'on était en bout de pale. Leurs recours ont été pris contre un arrêté du préfet des Ardennes. Il avait été rejeté en première instance, mais la cour d'appel de Nancy a finalement acté une régularisation du projet en 2022. Et c'est donc dans le cadre de cette régularisation que les juges de Nancy viennent d'estimer, donc jeudi dernier, que les seuils d'alerte admis pour apprécier ce phénomène donc de saturation visuelle sont largement dépassés, et ce pour les habitants des 5 communes qui jouxtent ce projet de parc éolien. La cour d'appel a donc conclu que le projet litigieux aggravait de manière significative l'encerclement des horizons de ces villages limitrophes du parc éolien. Et selon les juges, la régularisation du projet ne peut pas se cantonner à la suppression de quelques éoliennes. Ils estiment qu'une nouvelle étude d'impact est nécessaire.
L'air pur, l'eau pure à une terre saine. De ces trois choses, nous n'avons plus une seule. Voilà, et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
On va s'intéresser maintenant à la renomination de Francesca Albanese dans sa qualité de rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens. Son mandat donc vient d'être renouvelé pour 3 ans, c'était ce 4 avril, et ce malgré une campagne très violente menée contre elle. Ses prises de position et ses interventions publiques lui ont en effet valu des attaques violentes de la part de groupes d'influence qui soutiennent la politique israélienne actuelle. Francesca Albanese est accusée tour à tour de jugements partiaux anti-israéliens, voire d'antisémitisme, de soutenir le Hamas, voire même carrément d'y appartenir. Le renouvellement de son mandat le 4 avril dernier donc, a été l'occasion de cette campagne d'attaque très violente qui a échoué, puisque son mandat est renouvelé pour 3 ans par les Nations Unies, outre les États-Unis d'ailleurs, qui ont demandé son départ, ainsi que le CRIF en France. À noter que 43 députés français, une majorité étant issue du groupe Renaissance, avaient dans un courrier appelé le Quai d'Orsay à bloquer la reconduction de cette juriste. Ce courrier était d'ailleurs porté par Caroline Yadan, la députée des Français de l'étranger. Mediapart s'est entretenu avec donc celle qui est avant tout juriste. Hein, c'était ce samedi 5 avril à l'occasion des Assises de la Palestine, organisées par la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. Dans cette interview donc très longue et très complète sur dans les colonnes de Mediapart, j'ai relevé notamment ces interrogations pour se demander combien de temps il faudra et quand, et peut-être si, tout simplement, la communauté internationale interviendra un jour pour mettre fin à ce qu'elle appelle un génocide. Et explique-t-elle, quand elle parle d'intervention, elle ne demande pas d'utiliser la force militaire, mais simplement d'appliquer le droit international, notamment d'arrêter de traiter Israël comme un partenaire commercial, d'arrêter la coopération, la recherche, d'arrêter de traiter Israël comme si c'était un État normal. Alors, dit-elle, que c'est un État d'apartheid qui commet aujourd'hui des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et elle conclut « Je pense qu'il existe une chance de sauver cette terre avec les gens qui l'habitent. Cette chance, c'est d'ouvrir les yeux aux Israéliens et de leur faire voir ce qui a été fait sous leurs yeux, même s'ils regardaient ailleurs. » Quand on lui demande si elle n'a pas l'impression de crier dans le désert, elle répond « Non, parce qu'en fait, les États membres de l'ONU m'écoutent. Ce que je dis ne leur plaît pas, mais ils écoutent. Et si ce n'était pas le cas, ils ne se seraient pas autant fâchés contre moi ou contre Amnesty International et tous les autres témoins. » Surtout, ce qu'ils craignent le plus, dit-elle, c'est que leur société civile ne m'écoute et que les jeunes ne m'écoutent. Les Nations Unies m'ont confié un mandat consacré entièrement à la Palestine. C'est la volonté des Nations Unies, pas la mienne. Les États vont continuer de m'entendre pendant les 3 prochaines années parce que je n'ai pas l'intention de changer ni de démarche, ni d'intensité du démarche. Du message, pardon. Et d'ailleurs, pendant ce temps, l'actualité... en Palestine continue de secouer et d'ébranler l'opinion internationale puisqu'une vidéo vient de prouver ce qui est notamment l'exécution de 15 secouristes par l'armée israélienne. Cette armée israélienne qui avait assuré à propos des victimes de ces bombardements que plusieurs véhicules avaient été identifiés en avançant de manière suspecte vers des troupes de l'armée israélienne sans phare ni signaux d'urgence. Bien, c'était visiblement un mensonge qui est démenti par cette vidéo, une vidéo qu'on retrouve en ligne. Elle a été retrouvée dans le smartphone de Rifat Radwan, qui est malheureusement décédé dans cette attaque. Son cadavre a été déterré et dans son smartphone étaient donc filmées ces images terribles. Les derniers mots de ce secouriste, d'ailleurs, qui a donc filmé son propre assassinat dans la bande de Gaza le 23 mars dernier, étaient adressés à sa mère. Il disait « Pardonne-moi, mère, c'est le chemin que j'ai choisi, aider les gens ». Le convoi de ces secouristes était donc clairement identifié, non armé, avec des gyrophares. Et alors qu'il venait de se garer devant un véhicule visiblement touché par des tirs, il a lui aussi été pris à son tour sous un déluge de balles. L'armée israélienne avait tendu une embuscade donc à ces 15 secouristes et les a massacrés, ne leur laissant aucune chance de survie. On peut entendre dans cette vidéo des rafales d'armes automatiques pendant près de 5 minutes. Pendant plusieurs jours, l'ONU et le Croissant-Rouge, qui étaient donc les commanditaires de ces humanitaires, se sont vus refuser l'accès sur place pour rechercher les secouristes disparus. Lorsque l'armée israélienne leur a finalement donné l'autorisation de s'y rendre, ils ont découvert 15 secouristes enterrés à la hâte dans une fosse commune. C'était le 30 mars dernier. L'ONU et la Croix-Rouge ont qualifié cet événement comme étant l'attaque la plus meurtrière contre leurs travailleurs depuis 2017. Il faut rappeler que même pendant la Seconde Guerre mondiale, les convois de la Croix-Rouge bénéficiaient d'une protection et pouvaient circuler pour porter assistance aux victimes. Gaza est ainsi le plus grand cimetière d'humanitaires et de secouristes de la planète. L'ONU rappelle qu'au moins 408 de ces humanitaires ont été assassinés à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Et pendant ce temps, la contestation contre le gouvernement israélien continue à Jérusalem, où comme tous les jours depuis 2 semaines, et tous les jours à venir encore, des foules de manifestants se rassemblent le soir à Tel Aviv, après avoir fait le siège toute la journée des maisons des ministres ou des responsables du gouvernement Netanyahou. Ces rassemblements se font pour exiger la paix, la chute de Netanyahou et la libération des otages. En RDC, la République démocratique du Congo, la capitale Kinshasa, a été prise sous les flots des inondations et plusieurs dizaines de personnes sont mortes des suites de ces inondations. Des pluies diluviennes donc sont tombées dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 avril. Elles ont fait gonfler la rivière Njili, qui est donc sortie de son lit. Pour l'instant, on en est à une 30aine de morts, déclarait ce dimanche le docteur Patricien Gongo Abakazi, ministre provincial de la Santé, à l'AFP. Les victimes sont mortes noyées ou bien tuées dans l'effondrement de leur maison, précisait-il, en ajoutant qu'énormément de blessés ont aussi été évacués, sans donner de chiffres précis. Ces inondations ont dévasté plusieurs quartiers périphériques de Kinshasa, des quartiers défavorisés de cette mégapole de 17 millions d'habitants. S'ils sont particulièrement vulnérables aux intempéries, c'est notamment à cause de l'urbanisation anarchique liée à un énorme afflux de population provenant de régions instables. On considère qu'environ 450 000 personnes nouvelles s'installent chaque année à Kinshasa. Or, cette capitale, traversée par une vingtaine de rivières élongées par le fleuve Congo, est complètement saturée. La moitié de la ville est ainsi construite sur des terrains dangereux, aux abords des rivières ou sur des collines au sol sablonneux. Les inondations font donc régulièrement des victimes dans cette capitale. Elles avaient par exemple en décembre 2022 déjà tué 169 personnes. Au Brésil, la capitale Brasilia accueille en ce moment une mobilisation inédite des peuples autochtones. Ils sont venus d'Amazonie ou du Pacifique. On est à quelques mois de la COP30 et ce sont donc plus de 8000 représentants de ces peuples autochtones qui réclament un véritable pouvoir de décision pour défendre leurs terres face à la crise climatique. Plusieurs milliers de représentants des peuples d'Amazonie ou d'Océanie se sont donc retrouvés hier lundi à Brasilia en réclamant la même voix et le même pouvoir pour leurs leaders que pour les autres chefs d'État de la COP30 qui est prévue au mois de novembre au Brésil. Ils arboraient pour la plupart des tenues traditionnelles et des peintures corporelles. Des délégations de 200 peuples se sont donc présentées au rythme des maracas et autres tambours, soulevant un nuage de poussière à quelques encablures des sièges des institutions dans la capitale brésilienne. Quelques 8000 personnes participent à ce campement, qui va se tenir encore jusqu'à vendredi, selon les organisateurs. C'est un rassemblement annuel qui s'appelle Terre Libre. Il regroupe habituellement surtout les représentants des peuples indigènes du Brésil, et ils reçoivent donc cette année les délégations de Bolivie, d'Équateur, du Guyana, de Guyane française, du Suriname et du Venezuela, mais également donc pour le Pacifique, des peuples d'Australie, des îles Fidji ou d'autres pays d'Océanie. Tous ces peuples autochtones disent partager la même vulnérabilité face au réchauffement climatique. Nous exigeons donc que les leaders des communautés indigènes et locales aient la même voix et le même pouvoir que les chefs d'État à la COP30, avec la même légitimité et le même pouvoir décisionnaire que les représentants des pays. C'est ce qu'affirmait Alana Manchineri, une chef indigène du Brésil. Elle a lu une déclaration conjointe de tous les peuples représentés. Cette déclaration réclame par ailleurs, aussi des financements directs pour les peuples autochtones afin qu'ils puissent préserver l'environnement et être compensés pour les dommages subis. Dans le Pacifique, nous avons des difficultés spécifiques, mais nous voulions être ici pour montrer aux indigènes d'Amazonie que nous pouvons lutter ensemble, déclarait également Alicia Rabukawaka, qui est venue des îles Fidji où l'augmentation du niveau de l'océan a là des conséquences concrètes sur la vie de son peuple. L'eau salée entre sur les terres où nous plantons notre nourriture, alerte cette jeune femme de 37 ans. La présidence brésilienne de la COP30 a, elle, annoncé la création d'un cercle de leaders indigènes pour justement permettre que les peuples autochtones soient entendus lors de cette conférence de l'ONU sur le climat. Elle se tiendra du 10 au 21 novembre dans la ville amazonienne de Belém, dans le nord du pays. Sous le mot d'ordre « Nous sommes la réponse », le rassemblement Terre Libre prévoit, lui, cette semaine, plusieurs cortèges vers l'esplanade des ministères, un lieu symbolique des lieux de pouvoir du pays dans la capitale de Brasilia. C'est là-dessus qu'on se quitte, chers amis. Un petit peu de musique aussi avec le samba de Coco Raízes de Arco Verde, version remix, je crois, du morceau A Sereia. Je vous dis bien à jeudi pour d'autres nouvelles du monde et d'ici là, portez-vous bien. Todos os peixes ficam calados só pra ouvir o seu lindo cantar. Como é bonito o canto da sereia quando ela canta lá no alto mar. Como é bonito o canto da sereia quando ela canta lá no alto mar. Metade peixe, metade mulher, muito difícil de se encontrar. Como é bonito o canto da sereia. Quando ela canta lá no alto mar. Como é bonito o canto da sereia quando ela canta lá no alto mar.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.